qui commence lorsque Abraham est sorti d'Ur Kasdim. Et nous avons vu que, déjà, au niveau de l'histoire d'Abraham lui-même, il y a deux époques, deux épisodes du point de vue du développement de son identité. Lorsqu'il sort de l'exil d'Ur Kasdim, il se nomme Abraham, et son identité est encore de l'ordre araméen, bien que le texte du verset au chapitre 14, si vous vous souvenez, à propos de la guerre des rois où a été pris Lot, le verset le nomme Abraham à Ivri, Abraham l'hébreu. Je ne reviens pas sur cette analyse, parce qu'il nous faudrait au moins autant de temps. Et il y a tout un effort dans l'identité d'Abraham pour devenir Abraham. C'est toute une série de péripéties que la Torah note, raconte, analyse, et que nous vivons d'ailleurs d'une certaine manière, comme nous l'avons étudié la dernière fois. Donc je ne reviens pas sur ces problèmes. Mais je vous avais signalé cela en préface, à un deuxième thème qui est très important, cette identité aram, qui a fait que les Hébreux de l'origine, dans leur exil, c'était l'exil d'Ur Kasdim que la Torah nous raconte à la sortie d'Abraham de cet exil, sont devenus les Araméens, comme j'ai dit, et puis finalement une seule famille a été rescapée de cette Shoah du temps d'Abraham, ont eu tendance à devenir non pas une parmi les nations, et encore ce n'est pas le terme de nation qu'il faudrait employer, disons un parmi les peuples ou une parmi les ethnies, mais disons quelque chose de cet ordre, un peu à la manière dont l'identité juive va apparaître chez les nations dans l'exil de Rome, où il y a l'identité juive en exil. Bien sûr, on sait que ce n'est pas un peuple comme les autres, mais c'est un peuple au milieu des autres. Quel est le problème? C'est que l'identité Abraham est destinée à avoir une envergure universelle. Et c'est un problème que nous aurons l'occasion, il y a encore beaucoup de temps à la fin de l'année, mais enfin, d'étudier pour lui-même. L'indice, Israël est à l'échelle de l'universel humain. Rappelez-vous toujours la formule de base, le verset important, au moment de la révélation du Sinaï, Vatem tihulim amlechet kohanim begoy kadosh. Amlechet kohanim begoy kadosh, c'est la définition même de l'identité d'Israël. Si Israël est destiné à être une société de prêtres, enlevez le mot français, de kohanim, et en cela une nation à part, goy kadosh, dans sa sainteté spécifique, c'est à l'échelle de l'humanité entière. Et encore une fois, c'est un sujet pour lui-même, mais je crois que le principe est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire être prêtre? Si tout Israël est prêtre, c'est prêtre des nations. Nous avons appris que ce projet a été empêché dès la sortie d'Égypte par deux causes. Le refus des nations, c'est rejeté pour les temps messianiques, et d'autre part, l'incapacité d'Israël lui-même, cause intérieure, lors de l'adjonction du Erev Rav à Israël au temps de la sortie d'Égypte. Bon, tout ceci, c'est encore une fois, ça fait 13 fois que je vous le dis, un sujet pour lui-même. Mais cet effort de l'émergence de l'identité hébreu à l'échelle universelle du dedans de l'identité araméenne va déclencher toute une série de rivalités d'identité que la Torah nous raconte. Et les kabbalistes appellent cette identité araméenne la klipa, l'écorce araméenne de l'identité Israël. Est-ce que c'est suffisamment clair ce que je dis là, Ken? C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est le récit des Toladot à partir de la famille d'Abraham, des engendrements de l'identité d'Israël, l'identité Israël à partir d'Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, qui va recevoir le nom d'Israël, c'est un effort de se débarrasser de cette manière d'être trop spécifique, trop différenciée et donc trop compliquée que représente la klipa aram lorsque Hever, l'identité Hever, hébreu, est en exil. C'est le handicap de notre mission de dispersion dans l'universel humain, du fait de la dispersion dans l'universel humain qu'on appelle la galoute. La galoute va nous handicaper de cette identité aram telle qu'on l'apprend au niveau de l'histoire d'Abraham, et qui se retrouve à des indices différents dans les autres exils. L'exil actuel, c'est l'identité juive. Je suis obligé de parler rapidement. Je voudrais que ce soit clair. Ce n'est pas du tout un jugement négatif que je porte sur l'identité juive. Mais il faut comprendre que par rapport à l'identité hébraïque, l'identité Israël, il y a la même péripétie que l'identité hébraïque se recouvrant de la Kippa Aram, s'en nourrissant d'ailleurs, et bien de la même manière, à partir de la destruction du deuxième temple, du premier déjà d'ailleurs, mais je le prends au deuxième temple, où le peuple d'Israël dispersé devient le peuple juif, où la nation hébraïque dispersée devient le peuple juif, cette identité juive représente le même problème que l'identité aram vis-à-vis de l'identité hébraïque. Si c'est suffisamment clair, je peux enchaîner. Okay. Alors, lorsque je dis identité juive, je ne parle pas des valeurs de cette identité. Les arachim, les midot, elles sont hébraïques, mais traduites fût-ce dans les langues juives qui sont l'araméen de notre temps, d'une certaine manière. Que ce soit le yiddish, que ce soit le judéo-arabe, que ce soit le judéo-espagnol, tout ce que vous voudrez, c'est l'araméen de notre temps. Et c'est une culture très riche, très positive, elle est la nôtre, mais elle n'est pas vraiment la culture hébraïque. Il faut que du dedans de cela réapparaisse la culture, l'identité hébraïque. C'est le phénomène qui se passe de notre temps dans le passage de l'identité juive à l'identité israélienne. Je pense que c'est suffisamment clair. Alors bien évidemment, je ne parle pas du contenu des valeurs, il n'y a jamais de judaïsme que l'hébraïsme lui-même, mais traduit. Et dans cette traduction, il y a eu beaucoup de trahisons. Vous connaissez la phrase, je crois que ça vient des Italiens, un traducteur, c'est un traître. Il ne peut pas faire autrement. Est-ce que c'est clair? Et voilà ce que je voulais dire. Il s'agit du statut sociopolitique. Le statut sociopolitique de l'identité juive est anormal par rapport au statut que la Torah assigne à l'identité Israël. Est-ce que c'est bien clair? Bien. Je récapitule ça en une seule phrase et on enchaîne. C'est-à-dire, il y a 2000 ans, les Hébreux sont devenus les Juifs. De notre temps, les Juifs redeviennent les Hébreux et c'est ça Israël. Or, ça déclenche toute une série de rivalités, de problèmes de rivalités que nous vivons dans le temps contemporain, mais je voudrais vous aider à les identifier dès l'origine. Parce que dès l'origine, ces rivalités ont éclaté lorsque Avraham à Ivri devient Avraham Avramon Goïm, le point de départ de l'émergence de l'identité Israël, Abraham, Isaac, Jacob devenant Israël. Alors je vous avais donné à la fin du cours de la fois précédente, si je me souviens bien, vous me le rappellerez, un schéma de ces rivalités. Je vous le rappelle brièvement et on enchaîne sur un premier cas, Ishmaël, Yitzhak. Alors ce schéma est le suivant. Vous avez deux séries de rivaux dès qu'Abraham commence son histoire. D'un côté, ceux qui veulent annuler cette histoire qui commence avec Abraham. Alors, c'est ce que j'appellerais les antagonistes, dont l'objectif, c'est de détruire cet Israël en cours d'émergence. À la première génération, au niveau d'Abraham, c'est Nimrod. Et chaque fois que vous retrouverez ce sujet de l'identité de Nimrod, qui est le principe des empires, alors, vous pourrez le situer là. L'objectif de Nimrod, c'est d'annuler cette aventure qui est l'aventure messianique, qui commence avec Abraham. C'est pourquoi le Midrash nous raconte que c'est Nimrod qui a jeté la famille d'Abraham dans la fournaise de Kasdim. Et vous rappelez l'analogie, c'est les fours crématoires de ce temps-là. Okay. Et dans l'autre série, vous avez une approximation d'identité, une identité qui ressemble, qui sort de l'identité aram, qui ressemble et qui s'instaure en rivalité, qui n'a pas la force de réaliser la mutation qui fait qu'Abraham devient Abraham. Et ça sort de la famille. Alors, le premier niveau, c'est Lot. Toute l'histoire de Lot et Abraham, c'est la rivalité d'un Aram qui veut rester Aram contre celui qui redevient hébreu. Est-ce que c'est clair? Bon. Et alors, si la Torah nous raconte cela, et quand vous serez avancé dans vos études, vous verrez que les grands mefarchim se sont occupés de ces problèmes. C'est pas connu dans les yeshivot. Les livres sont connus, mais on étudie pas de ce point de vue-là. En particulier, ce à quoi je fais allusion en propos de Lot, c'est le Shla. Vous avez entendu parler du Shla, Shnei Luchot Abrit, c'est un des grands. Je vais le dire, c'est un Ashkenaz d'origine Sparas. Ça existe. Il était d'une famille d'Espagne, une famille Lévi, qui a été exilé dans le sud de la Russie, qui a pris le nom de Horowitz, qui était le nom du seigneur Goy de l'endroit, c'est que c'est un nom Goy, Horowitz. Okay. Il y a de grands tzadikim qui s'appellent Horowitz. Il s'appelle Rabbeinu Eshayahu Horowitz, et on l'appelle le Shla Kadosh. Il y a beaucoup, beaucoup de grands hachamim, des ashkenazim, qui sont d'origine d'Espagne. Et je referme la parenthèse. Et c'était une parenthèse. Enfin, nous sommes parents. Et, comme vous savez, je m'appelle Ashkenazi. Et alors, le Shla étudie beaucoup cela en nous disant pourquoi Abraham va protéger l'autre jusqu'au bout alors qu'ils se sont séparés. Si on avait eu le temps, on aurait étudié le récit de la séparation entre l'autre et Abraham. Abraham lui dit, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. C'est pas simple comme problème, vous le lirez dans la Torah. Rachid intervient pour dire, je sais plus parler français, c'est-à-dire, je vais paraphraser, Ken. Bien sûr que s'il va à droite, il va à gauche, s'il va à gauche, il va à droite. Et, mais c'est pas simple, parce que finalement, il a laissé le choix, Abraham a laissé le choix à l'autre. Et qu'est-ce que l'autre a choisi? Sodome et Gomorre, pour qu'Abraham reste dans le pays de Canaan. Et s'il avait choisi le pays de Canaan, Abraham serait allé à Sodome et Gomorre? Couchia, c'est un problème. Hein? Donc, pour vous montrer que ce n'est pas simple. Hein? Et alors Rachid dit, voilà ce qu'il lui dit. N'aie pas peur, on va se séparer, mais je ne te quitterai jamais. Je serai toujours près de toi pour te protéger, bien qu'étant loin. Et il explique comme ça. Si tu vas à gauche, je vais à la droite de ta gauche. Et si tu vas à droite, je vais à la gauche de ta droite. Et alors le Shla explique ça, il dit pourquoi? Cherchez pas des analogies. Pourquoi? Parce qu'il y a une kdusha enfouie dans cette klipa aram qui est restée chez l'autre. Et cette kdusha enfouie, il va falloir du temps pour qu'elle arrive à se dégager de l'impureté, redevenir pure. Et il s'agit de Ruth qui revient de la descendance de l'autre et qui sera lancée du Mashiach. Donc vous voyez que c'est clair. Donc cette identité aram, tout impure qu'elle est, et ne me faites pas dire que j'ai dit que les Juifs étaient impurs. Quand ils arrivent en Israël, ils se purifient. C'est inversé, d'ailleurs. « Vechiper admato amo ». Eh bien, cette identité aram a gardé enfoui ce que les kabbalistes appellent des étincelles de sainteté que l'on doit finalement délivrer. Alors, en fin de compte, cette délivrance dans la descendance de l'autre, c'est précisément... Ruth, est-ce que c'est clair? Vous voyez pourquoi cet éloignement de l'autre vis-à-vis d'Abraham va garder un lien de proximité qu'Abraham va surveiller. Il ne veut pas laisser l'autre être détruit, parce que l'autre, encore une fois, enferme en lui cette kedusha de Ruth qui ne va se dévoiler que très, très longtemps après. Est-ce que c'est clair? Bon. Vous voyez pourquoi on aime bien les Juifs de Brooklyn, mais qu'ils soient loin. Seulement, il faudrait qu'ils fassent comme Ruth. Prendre la route. Attendez, une minute. Alors, ça c'est la première génération, j'avance rapidement. Vous voyez donc ce que je vais indiquer en disant approximation d'identité, mais qui s'instaure en rivalité. Et effectivement, de l'autre sont sortis deux peuplades, Ammon et Moab. Le Tanakh raconte tous les démêlés qu'on a eu, déjà la Torah avec moi, tous les démêlés qu'on a eu avec ces peuplades qui ont à l'échelle biblique une revendication de rivalité messianique. Et bien que cette identification est beaucoup plus difficile à percevoir dans les temps modernes, ça travaille encore. Je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement vous indiquer ces perspectives. Alors la deuxième génération, l'approximation d'identité vis-à-vis d'Itsrak, c'est évidemment Ishmaël. C'est un fils d'Abraham que très tard la Torah va nommer fils d'Abraham lorsqu'il aura fait Tshuva. Là, ici, on a une bonne nouvelle, c'est que, en fin de compte, Ishmaël fera Tshuva. On n'y est pas encore. Hein. Mais, et quand il fait Tshuva, alors la Torah l'appelle Ben Abraham. Mais il est né Ben Abraham. C'est clair. Ça va être le sujet de l'étude aujourd'hui. Et à l'opposé, dans la série des antagonistes, il y a un cas qui mériterait au fond d'être étudié après tout. Rappelez-moi, la semaine prochaine, on étudiera ce cas-là, c'est le cas d'Abimelech. Abimelech, qui est le roi de la Philistée, et qui veut couper cet Israël qui est en train d'être engendré de la terre d'Israël. Il réclame la terre, alors qu'Ishmaël réclame l'héritage de la terre. C'est ces deux... Non, je ne voudrais pas entrer dans des identifications contemporaines, on verra ça la prochaine fois. Vous verrez que Abimelech dit à Abraham, voici ma terre, c'est Abimelech qui parle, là où tu veux, tu t'installes ma terre. Et Abraham signe un contrat. Et alors, ça déclenche ce que la Torah va appeler le sacrifice d'Isaac, Akedat Yitzhak. C'est une chose peu connue, mais je vous montrerai dans le texte comment la mise à l'épreuve va être déclenchée par le problème de Abimelech. Et à la troisième génération, c'est Jacob. Alors l'approximation d'identité, c'est évidemment Ésaü. Et puis l'antagoniste qui veut tout détruire, c'est Laban. Et regardez comment là ça éclate. Laban est appelé de nouveau, mais en clair, Laban l'araméen. À Arami Ovedami. Et vous vous rappellerez la Mishnah de l'Agada, chez Laban Bikesh, la Hako et à Kol. Que Laban a essayé d'extirper tout, de détruire tout. Kol, c'est Remez les Yaakov, comme vous savez. Alors je vous ai dit donc, c'est six rivaux, et puis il y a certaines époques où ces six rivalités se récapitulent dans une septième qui est Amalek. Et Amalek se définit avec les deux objectifs, et remplacer Israël et le détruire. Alors que dans les six précédents, on en avait trois qui veulent remplacer Israël sans le détruire. On le met en ghetto, ça suffit, okay. Ça suffit, vous savez la suite des ghettos. Et puis, finalement, on décide de leur donner le guet, mais et de les quitter. Et puis, trois autres qui veulent détruire. Alors Amalek, lui, veut et détruire et remplacer. Et là, on verra, si vous voulez, la semaine prochaine plus en clair. Nous avons eu à nous mesurer avec des Amalek différents à travers les temps. Mais chaque fois, ce qui apparaît, c'est que c'est au moment de la fin d'un exil qu'Amalek ressurgit. Je vous avais parlé de ça la semaine dernière, Ken. Et je crois qu'il est inutile de préciser plus. Aujourd'hui, nous avons affaire avec ce qu'on appelle les Palestiniens, et qui, j'ai dit souvent aux élèves, quand j'étais enfant, j'habitais en Afrique du Nord, les Palestiniens, c'était nous les Juifs. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était premier de la classe, au lycée français, et ça arrivait, d'ailleurs, il y avait une rumeur dans la salle, les Juifs en Palestine. Et alors on est arrivé en Palestine, on lui a dit, non, c'est pas chez vous, c'est les autres. Et effectivement, l'objectif de ce qu'on appelle les Palestiniens, il faut parler en clair, et ils ont derrière tous les Amalek de l'histoire qui les aident, c'est de détruire Israël et de le remplacer. Je pense que c'est suffisamment clair. Donc. Alors donc, je finis avec ce schéma, et je vais mettre en évidence, et nous allons étudier, qu'est-ce qu'il y a entre Ishmaël et Yitzhak. Ça va jusque-là ? Alors, vous allez prendre un verset que nous allons étudier dans le chapitre 21. Vous allez prendre le verset 8 du chapitre 21. C'est dans Vaïra ? Quel paracha ? Voilà, une petite préface très rapide. La promesse qui a été donnée à Abraham qu'il aurait un fils, et promesse qui ne peut se réaliser que lorsque Abraham a le courage de devenir Abraham, et vous voyez à quoi je fais allusion, dommage qu'on n'ait pas assez de temps pour remplir tout ça, mais vous l'étudierez d'autre part, et il faut aussi que l'identité de Sarah, qui est la matrice de cet engendrement, arrive à un certain niveau de maturité qui permet que ce soit vraiment celui qu'on attend, l'enfant qu'on attend, Yitzhak, fils d'Abraham, et non pas une approximation qui naisse. Parce que tant que cette matrice n'est pas capable de donner l'enfant attendu, elle risque de donner une approximation, ce qui serait une catastrophe. On va voir un exemple avec Ishmaël comme approximation d'une autre matrice. Et c'est pourquoi Dieu empêche l'enfantement, tant que l'enfantement n'a pas encore les chances complètes, totales de réussir. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Vous allez découvrir un thème dans cette histoire qui est très important parce qu'il revient souvent. La mère qui doit enfanter le fils du patriarche est empêchée d'enfanter tant qu'elle n'en est pas capable. On traduit ça en français stérile, mais ce n'est pas le mot exact, puisqu'en fin de compte, elle enfante, donc ce n'était pas stérile. Est-ce que c'est clair ? Okay. Et quoi qu'il y ait un Midrash qui pousse les choses à la limite en nous disant, je ne voudrais pas les termes ilanites, mais enfin les termes en hébreu, incapable d'enfanter, et qu'il y a un vrai miracle de régénération de la matrice. Mais il faut étudier le Midrash, qu'est-ce qu'il veut dire? Pour le Pshat, d'une façon générale, c'est, et on le voit dans un des épisodes de Jacob et Rachel, lorsque Rachel se plaint, pourquoi je n'ai pas encore d'enfant? Alors Jacob lui dit, Atahat Elohim Anochi, Asher Mena Achal Aledet. Est-ce que je suis à la place de Dieu qui t'a empêché d'enfanter? Vous voyez bien que ce verset éclaire notre problème. Alors, ce que je vais expliquer, c'est cela. Et pourquoi Dieu empêche? Parce que le temps de maturité, de maturation n'est pas arrivé. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, c'est pourquoi il y a eu un fléchissement de la confiance chez Abraham, mais surtout chez Sarah, qui, elle, va prendre l'initiative, une initiative généreuse, de donner Agar à Abraham, pour qu'au moins que ce que représente Abraham fasse souche. Et on attendra le temps où une Sarah future sera capable de donner Isaac à Abraham. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Vous avez compris? Il y a surtout là ces deux dimensions, enfin ces deux principes que j'essaye de formuler. Il y a un fléchissement de la confiance, mais en même temps une générosité colossale vis-à-vis d'Abraham. Le Zohar étudie ces passages-là avec beaucoup, je ne sais pas comment dire, de larmes, en disant « à cause de ça, Ishmaël est né ». Peut-être vous ferez ce soir pour lui. Vous le connaissez, non? Je te montrerai. C'est une discussion entre deux rabbins. Ils arrivent sur ce verset qu'on est en train d'étudier, et puis il y a un rabbin qui dit, comme on dit en arabe, « Oy vavoy, qu'est-ce qui nous est arrivé avec cette naissance d'Ishmaël ?» Bon, je vous donnerai la référence, vous l'étudierez par vous-même. Effectivement, ce fléchissement de la confiance, ça ne vient pas. Et ce souci qu'au moins ce que représente Abraham reste dans l'histoire, font que Sarah suggère à Abraham de prendre Agar. Le texte dit sa servante. Alors le Midrash intervient et dit Agar, ce n'est pas n'importe qui. C'est la fille du pharaon de l'époque. Et qu'est-ce qu'elle fait comme servante de Sarah? Alors il faut savoir que Abraham est connu à l'époque comme étant, je vais vous dire l'expression du verset, Nessi Elohim Mata Bikirbeni, disent les Hittites par exemple, un prince de Dieu. Ça veut dire nous croyons que c'est un petit juif de l'époque, okay, mais il est connu dans la civilisation du temps, avec ce qu'il représente du point de vue de son identité, pour être le porteur de l'espérance de l'histoire du monde. Et il faut connaître les traditions de ce temps, l'histoire de ce temps, au niveau où la Torah y fait allusion. Elle se borne à y faire allusion. Le Midrash nous restitue ce que notre mémoire n'arrive pas à nous rappeler. C'était un temps où, lorsqu'on parle d'Abraham, le pharaon sait qui c'est Abraham. Les habitants du pays savent qui est Abraham. Et alors, c'est donc pas étonnant que le pharaon lui a donné sa fille comme servante. Mais par rapport à notre problème, ça veut dire que Agar, fille du pharaon, d'après le Midrash, représente une capacité d'enfantement, une capacité de fécondité du point de vue de l'identité de l'Égypte, et qui serait disponible pour Abraham pour tenter de faire naître cet Israël qui se cherche dans tous ses enlambrements. Vous voyez à quoi on a échappé, que Israël sorti de l'Égypte comme matrice d'engendrement serait Ishmaël. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Alors, je vais reformuler cela de la manière suivante. Ça veut dire qu'Abraham a essayé, avec la matrice de sa propre famille hébraïque devenue araméenne. C'est pas pour rien que le texte, le Midrash nous indique que Sarah, c'était la demi-sœur d'Abraham. Sa sœur, à la limite. Mais du point de vue de la halakha, il n'aurait pas eu le droit, mais comme... il est quand même marié. Alors, bon, l'histoire femme, sœur, c'est encore un autre sujet. La Torah nous indique, oui, qu'elle est sa sœur par son père, mais pas par sa mère. C'est-à-dire, c'est la même identité. Et alors, normalement, et c'est la cohérence du récit, c'est de cette identité hébraïque devenue araméenne que doit venir cet engendrement d'Israël. Mais voilà, tout se passe comme si cette société en tant que matrice d'engendrement, perd confiance en elle et renonce et cherche une société de remplacement. Et à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à ce qui arrive aux Juifs, à travers tous les exils, et lorsqu'ils s'assimilent, de perdre espoir dans la permanence de l'espérance hébraïque en tant qu'hébraïque, et cherche une identité de remplacement qui serait le véhicule des valeurs d'Israël. Et je pense surtout à ce qui est arrivé aux Juifs de France à partir de la Révolution française. Pour vous donner que cet exemple-là. On s'est dit, bon, ben, c'est pas la communauté juive qui est capable de porter cet avenir, c'est la France. Et on va confier à la France les valeurs d'Israël. Et vous relisez en filigrane toute l'histoire des grands hommes juifs, des grandes familles françaises, comme juifs, qui ont cru sincèrement, a posteriori de l'histoire, on se demande quelle aberration, okay, mais ils ont cru sincèrement que c'est à travers la culture française que les valeurs juives allaient triompher dans le monde. On renvoie le relais messianique à la France. Eh bien, c'est clair. Okay. Eh bien, les Juifs allemands ont été sûrs que c'était l'Allemagne. Les Juifs roumains, que c'était la Roumanie. Non, je crois qu'eux avaient plus d'humour. Mais en tout cas, si je prends l'exemple de l'Allemagne, c'est énorme. Vous avez entendu parler des grandes Agudat Israël de Francfort. Je pourrais vous citer des noms, mais je ne le ferai pas. Qui étaient persuadés que c'est la culture allemande qui serait le véhicule des valeurs d'Israël. Torah im derech eretz de l'Allemagne. Ils ont encore des descendants ici et qui ne se cachent pas d'avouer cela, que leurs parents, leurs grands-parents leur disaient en clair qu'ils avaient une mission de sauver l'humanité à titre des valeurs d'Israël, mais à travers la culture allemande. Bon, alors vous trouvez l'histoire des Juifs français très analogue et ainsi de suite. Les Juifs russes ont cru cela pour la Russie jusqu'à la révolution soviétique y compris. Et je suppose qu'il y en a encore qui continuent à le croire, d'ailleurs. Voilà, et bien, c'est l'épisode Sarah Agar. Est-ce que c'est clair? Ici, Agar, c'est la France. Ken?
Comment
on va demander
pour Sarah qui lui propose?
Il accepte. Mais lisez le texte. Il accepte. Reprenez ce texte du Zohar. Si vous avez pensé, je l'aurais amené. Pour la semaine prochaine, tu me demandes, je l'amènerai. Okay. Je vous lirai cela. Vous verrez cette panique des rabbins du Zohar lorsqu'ils relisent ce texte et qu'ils prévoient, et ils le disent d'ailleurs, que toutes les tsarotes que nous avons avec Ishmaël aujourd'hui, ça vient de là. Parce que si ça ne s'était pas passé, on n'aurait pas eu cette histoire colossale d'une revendication de la terre d'Israël en tant qu'héritage d'Abraham par Ishmaël à travers les Palestiniens, à travers Abimelech d'aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Ils le disent à l'avance. Grâce à Dieu, ils nous prédisent que finalement, c'est Israël qui sera triomphant. Mais à quel prix? Et le prix, on est en train de les payer, de payer dans toutes les guerres d'Israël. Et pas seulement ça. C'est clair. Ce qui est très frappant, c'est que les rabbins du Zohar, qui sont les mêmes d'ailleurs que les rabbins du Talmud, mais escalité de Zohar, nous parle de ce temps-là, alors que le pays n'était pas du tout occupé par Ishmaël, c'était autant où le pays était occupé par les Romains. Mais ils ont vu à l'avance que la véritable occupation dangereuse pour l'avenir, ce serait celle d'Ishmaël, qui a commencé après. Vous voyez donc quelle ligne de lecture je suis en train d'essayer de formuler. Et de retrouver un principe que je vous ai cité la dernière fois, la fois d'avant, je ne me rappelle plus. Bon, il y a eu une takala, comment dire en français? Hein? Une bévue, non, une panne, c'est un puncher. Un incident de parcours, Ken. Et alors Ishmaël, ça ne peut pas se supprimer. Et pourquoi Dieu a laissé Ishmaël se multiplier, comme il lui dit d'ailleurs, Ken? Se multiplier à un point tel qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte. Vous voyez, comme je parle prudemment. la réponse est que tout ce que Dieu crée, une fois que c'est créé, protégé jusqu'au bout, même les araignées. Et aucun rapport. Hein. J'en veux pas aux araignées particulièrement. Bon, vous comprenez le problème? Alors, je dirais même les nazis. Top. Et ça, nous l'avons déjà étudié d'autre part, vous le retrouvez dans beaucoup de sujets. Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu be'olamo lichbodo ve'ra'o. Mystère, mais c'est comme ça. Tout ce que Dieu a créé dans son monde, c'est pour sa gloire qu'il l'a créé. Alors même si nous, on ne sait pas, lui, il sait. C'est-à-dire, en tout cas, une fois que ça existe, ça existe. Et alors voilà que nous allons lire un verset sur la rivalité entre Ishmaël et Yitzhak, une fois qu'Ishmaël existe, et ce que les rabbins du Talmud ont dit de cette rivalité. Ça nous posera le sujet de l'identité Ishmaël, et j'essaierai de vous dire un certain nombre de choses, parce que, en général, les Occidentaux ne connaissent pas ce que c'est que l'identité arabe ou musulmane, orientale en général. Okay. Et même les Sfaradim qui ont vécu, par exemple, en Afrique du Nord, qui ont vécu chez les Arabes et chez les musulmans, ne la connaissent pas depuis qu'ils sont de culture occidentale. Et nos ancêtres, enfin nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, comprenaient l'islam, sur le bout des doigts. Ils vivaient dans cette culture. Ils savaient, lorsqu'on parle d'Ishmaël, qu'est-ce que c'est. Alors qu'aujourd'hui, nous, je me mets avec, ceux qui sont de culture française, je parle même des Nord-Africains, n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un arabe ou que c'est qu'un musulman. Ils en parlent à la manière des Occidentaux, qui projettent sur une identité autre leurs habitudes de pensée, leur catégorie de pensée. Et voilà donc ce qui se passe. Ishmaël est né, et entre-temps, eh bien, Dieu s'est rappelé de Sarah et lui a donné Yitzhak. Et vous rappelez le récit. Tout le monde a ri. Vous vous rappelez ? Et c'est pourquoi cet enfant va s'appeler Yitzhak. Et je vais en tenir compte tout à l'heure. Alors, on lit le verset. Verset 8. Vaïgdal ayeled. Et l'enfant grandit. Il s'agit d'Yitzhak. Vaïgamal. Et il fut sevré. Vous savez, qu'est-ce que c'est que le sevrage d'un enfant ? C'est quand il cesse de prendre le lait et qu'il commence à se nourrir de façon autonome. Okay ? Et après, quand j'arrive à la fin du verset, vous m'appellerez. Je vous citerai un chidouche du Zohar d'ailleurs. Et donc ce jour-là, Abraham a fait une fête. Alors je lis le verset. Vaïda la yeled, et l'enfant a grandi. Vaïgamel, il fut sevré. Vaïaras Abraham mishte gadol, et Abraham fit un grand festin. Beyom higamel et Yitzhak, le jour où Yitzhak a été sevré. On a posé la question, pourquoi cette précision supplémentaire, le jour où Isaac a été sevré. Il aurait suffi de dire il a été sevré et Abraham a fait un grand festin. Bref, je ne vais pas faire trop l'analyse du pirouche là. Le jour du sevrage, ce n'est pas le jour de la Brit Mila. Mais on a donné le chidouche suivant. Regardez bien le mot Higamel. Ziet, le troisième mot avant la fin du verset. Vous avez He Gimel. He Gimel, ça fait combien ? 5 et 3 ? 8. Et après Mal. Mal, ça veut dire circoncis. La circoncision est 8 jours. Ziet ? Alors que Ishmaël, lui, a été circoncis à 13 ans. Vous l'avez dans Vaï Gamel, Yud Gimel, même la même. Je veux dire pourquoi je vous cite ces Hidushim. Parce que la contestation entre Ishmaël et Yitzhak va porter sur le fait de l'alliance de la circoncision. Une des argumentations d'Ishmaël contre Yitzhak, on va avancer dans le texte et on y reviendra, c'est que Ishmaël, adulte, a accepté la circoncision, il a été circoncis à 13 ans, alors que Isaac, on ne lui a pas demandé son avis. 8 jours, c'est clair ? Je reprendrai ça tout à l'heure. Et cette tarana, comment dire en français, tarana, revendication, nous l'entendons dans beaucoup de traditions qui se sont instaurées comme rivales d'Israël, c'est qu'Israël serait l'enfant de la promesse selon la chair, par exemple, comme disent les chrétiens, par hérédité, qui n'a pas tellement de mérite. On est né juif, on n'a pas pu faire autrement, et par conséquent, on n'a pas tellement de mérite d'être l'Israël dont parlent les prophètes. Et que ce sont ceux qui ont accepté, choisi lucidement, majeur, l'identité Israël. Ça commence avec l'islam, on entend ça chez les chrétiens, qui sont le véritable Israël selon l'esprit. Vous comprenez cette ta'ana, cette revendication. Okay. Et alors, on va la retrouver dans le Midrash, qui parle des causes profondes de la mise à l'épreuve d'Abraham dans le sacrifice d'Isaac, entre guillemets, et qui dit ceci, « Vayi achar advarim ha'ele », c'est le premier verset de ce chapitre. Et il arriva après ces événements. Donc, c'est dans les événements immédiatement précédents que sont les causes de la mise à l'épreuve d'Abraham dans le Akedat Yitzhak. Et je mettrai en évidence la prochaine fois l'alliance avec Abimelech, qui est une des causes peu connues. Mais un des midrashim classiques va nous dire que le mot de Devarim, ici, doit être compris pas seulement comme les événements, mais les paroles. Quelqu'un a parlé avant. Qui a parlé avant? Entre autres, on verra que le Satan a parlé, Abraham a parlé, Ishmaël a parlé. Et qu'est-ce que Ishmaël dit? Après quelles paroles? Il dit à Isaac, « Toi, tu as été circoncis à 8 jours, mais moi, j'ai été circoncis à 13 ans. Donc c'est moi le véritable aîné. » Vous suivez? Enfin, le véritable héritier des promesses. Et que Isaac lui répond, « Toi, tu as accepté le sacrifice d'un de tes membres. Moi, si Dieu me demande tout entier, je suis prêt. » Est-ce que vous comprenez ce midrash terrible? Parce que Dieu va le prendre au mot. Il dit, « Ah oui, c'est comme ça. » Alors, il dit à Abraham, « Tu vois ton fils ?» C'est un midrash terrible. Ça veut dire qu'il y a une confirmation à faire. Et qu'effectivement, dans notre, on préférait s'en passer, mais dans notre histoire, cette confirmation est faite. Que devant cette tarana, que c'est par hérédité, que c'est sans demander notre avis, que nous sommes nés comme ça, que nous avons été choisis, eh bien, on en rend compte qu'on est prêt à passer l'épreuve. Est-ce que c'est clair? Je referme la parenthèse. Mais ce que je voulais ajouter, c'est une naïveté. Naïveté. Isaac avait 33 ans, il n'est pas naïf. C'est une, comment dire, un courage, tmimout, pas naïveté. Un courage de la foi qui est très dangereux. Ça veut dire, si jamais on est interpellé comme ça, tu es Israël, tu es d'accord? Oui. Tu sais ce que ça veut dire? Oui. Tu sais vraiment? Oui, alors vas-y. Vous avez compris à quel point c'est dangereux, okay? Donc, il faudra reprendre cela pour l'approfondir un peu. Et ce que je suis en train de vous dire pourrait se formuler ainsi. Est-ce que cette épreuve-là aurait pu être évitée? Bien sûr. En ce qui concerne Isaac, en ce qui concerne Abraham, c'est un autre problème. L'épreuve était pour Abraham. Ve'elokim nissa et Abraham. Okay? Mais, Ba'elechush ne'em yahdav, ils étaient d'accord tous les deux, va nous dire le Pirouche, ils sont allés ensemble, ça veut dire Isaac est complètement d'accord. Rappelez-vous, nous ne sommes pas fils d'Isaac, nous sommes fils de Jacob, fils d'Isaac. Mais en tant que fils d'Isaac, nous sommes donnés à cela, à avoir risqué d'accepter cette épreuve. Bien, alors je reviens donc au texte. Verset 9. Va terrer Sarah, et Sarah vit. Suivez bien les indications du verset. Et ben Hagar Amitzrit, le fils de Hagar l'Égyptienne, Asher Yalda le Abraham, qu'elle avait enfanté à Abraham. Vous voyez, c'est pas le fils d'Abraham, c'est le fils d'Hagar l'Égyptienne qu'elle avait, elle, Hagar, enfanté à Abraham. Metzachek, riant. Nous allons voir tout de suite ce que dit Rashi. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je veux d'abord vous citer la Gemara. Et après, on verra si on a le temps pour d'autres midrashim. Quel était l'objet de ce rire? Vatomer, verset 10. Vatomer l'Abraham, elle dit à Abraham, Garesh ha'amazo, renvoie, répudie cette servante. Vous voyez, ici, ce n'est pas le mot de Shifra qui est employé. C'est le mot de Ama, qui veut dire aussi servante. Mais oui, c'est la même racine que le mot de M. Et Ama, ça se dirait, je crois que ça existe aujourd'hui en français, aide maternelle. Ce n'est pas n'importe quel genre de servante. C'est celle qui aide la mère à élever les enfants. C'est Ama. Et oui. Non, gouvernante, il a fait. Non, gouvernante, c'est pour le père. je crois que l'expression aide maternelle, c'est pour le gouverneur. Aide maternelle est plus précise. Ved Bena et son fils, qui l'oirage Bena Amazot, car le fils de cette servante n'héritera pas Im Beni Im Yitzhak, avec mon fils, avec Yitzhak. Alors je vais aller assez rapidement, mais pour indiquer ceci qui est d'abord extrêmement étonnant. Sarah voit un enfant rire, Ishmael, Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle déclenche cette séparation qui est une répudiation d'Ismaël de la maison de son père Abraham. La séparation entre Ismaël qui va s'instaurer en rivalité. Et jusqu'à présent, c'est cette rivalité-là, la contestation sur l'héritage. Est-ce que le verset a dit qu'il oira chez Benham? Qu'est-ce qu'a dit Sarah? Je ne veux pas qu'il hérite avec mon fils. Est-ce que c'est clair? Bon. Un rire d'un enfant. Et alors, le Midrash va intervenir. Je vais vous citer trois enseignements. Disons, ce que Sarah a vu dans ce rire. Petite parenthèse. Un autre sujet, mais relié à ce point précis de notre étude. On sait qu'il nous a eu beaucoup de prophètes et beaucoup de prophétesses. Et la Gemara enseigne que les prophétesses ont été plus grandes que les prophètes, et qu'on l'apprend de Sarah par rapport à Abraham, car Sarah était plus prophète qu'Abraham. Mais lire, c'est un... Bon, ça vous étonne, je reviendrai là-dessus. Okay. Cette intervention de Sarah, elle se fait en dépit d'Abraham. Là, Abraham n'est pas content. Abraham n'est pas content, il va protéger Ishmaël jusqu'au bout, il ne peut rien, c'est Dieu qui a décidé, mais c'est Sarah qui prophétise. Est-ce que c'est clair? Vous verrez un verset qui nous dit « Abraham n'était pas content. S'il vivait de notre temps, il se serait inscrit à Shalom Arsha. » D'ailleurs, sans problème. Et je crois que vous avez là une explication un peu simple, cette chose invraisemblable. Qu'est-ce que c'est tous ces juifs, israéliens y compris, qui sont prêts à se suicider pour Ishmaël? C'est Abraham qui travaille là-dedans. Est-ce que c'est clair? Et vous ne trouverez pas Shalom Arsha chez Ishmaël. Ça n'existe pas, ça vous fait rire. Si vous êtes les enfants d'Israël. Et bon, mais je pose la question. Ça n'existe pas. Il y aurait un mouvement de type Shalom Arshav chez Ishmaël, il se retrouverait dans les prisons de Roumanie. Et vous savez que c'est les prisons de Roumanie. Il n'y en a pas. Alors, je crois que là, il faut bien réfléchir à cela. Il y a des comportements de la descendance d'Abraham, Isaac et de Jacob qui sont erronés, qui sont, attendez, enlevez ce mot-là, qui sont dévoyés. Parce qu'on réagit comme si on était Abraham, on réagit comme si on était Isaac, alors qu'on est Jacob. Est-ce que c'est clair? On comprend qu'Abraham soit Abraham, on comprend qu'Isaac soit Isaac, mais nous sommes Israël. Est-ce que c'est clair? Okay. Alors il y a une espèce d'orgueil énorme de se prendre pour Abraham. Parce qu'en plus, ça manque d'humour. Se prendre pour Abraham. J'essaierai de vous expliquer pourquoi c'est normal qu'Abraham protège Ishmaël. Mais tant qu'Abraham n'est qu'Abraham, Dieu ne révèle pas la Torah. Dieu a révélé la Torah, non pas à la descendance d'Abraham, non pas à la descendance d'Isaac, à la descendance de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Et je reviendrai très souvent à cette définition-là. C'est bien clair. Torah, Tzivalanu, Moshe, Morasha, Kilat, Yaakov. Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, ça vaut la peine de faire ce passage du Zohar. Parce qu'au fond, avec qui en avaient les rabbins du Zohar qui se plaignent de ce jour-là où Ishmaël est né? Avec Abraham. Parce que même lorsque Sarah a offert Agar à Abraham, Abraham aurait pu dire non, la promesse c'est pour toi, c'est pas pour Agar. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, c'est fléchissement de la confiance. Quand Dieu s'est adressé aux Juifs, eh bien, il s'est adressé aux Juifs en parlant d'Eretz Israël, pas de trifouiller les oies de la République française. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, on voit cette réaction. Ben, peut-être c'est elle, Marianne. J'y avais pas pensé. En plus, elle s'appelle Marianne. Bon, je reviens. Et alors, vous allez comparer deux mots. À la fin des deux versets, nous avons deux mots. On va les mettre ensemble et l'explication vous apparaîtra. Qu'est-ce que Sarah a vu? Elle a vu un enfant rire au présent. Metzachek. Qu'est-ce qu'elle dit? Il n'héritera pas avec mon fils qui s'appelle Yitzhak. Il rira au futur. C'est clair? Rapprochez ces deux versets. Alors ça va nous faire comprendre, et après on va étudier qu'est-ce que ça veut dire, ça va nous faire comprendre de quoi parlent les rabbins que je vais vous citer. Ça va jusque-là? Parce que énormément j'ose pas dire des commentateurs, parce que les commentateurs traditionnels savaient de quoi il s'agissait, énormément d'exégètes se sont étonnés. Qu'est-ce que c'est ce récit ? Où on voit une femme, Sarah, une sainte, être jalouse d'un gosse qui rigole, et parce qu'un gosse rigole, ça déclenche toute cette histoire. Est-ce que c'est que... Alors on voit que c'est beaucoup plus grave que ça. Et d'ailleurs, dans ce contexte, que Dieu a dit à Abraham, et kol asher tomar elecha Sarah shemar bekola. Tout ce que te dira Sarah, écoute-la. Et de là, le Talmud apprend, Sarah était plus grande prophétesse qu'Abraham. Alors, je me suis rappelé de cela, je voudrais vous donner quand même l'explication de cela. Un peu sous forme de chidouche, mais pour aller rapidement. Nous avons une Mishnah dans le Pirkei Avot qui dit ceci. Ezehu hacham aroe et anolad. De qui on peut dire qu'il est sage ? C'est celui qui prévoit les conséquences d'un acte. Aroe.